Bonjour à tous et à toutes, vous écoutez Happy Radio et je suis aujourd'hui avec un invité déjà venu à nos micros il y a quelques mois pour nous parler de son entreprise Erika. Mais cet homme, il est avant tout apiculteur, monsieur Paul Thérion, bonjour.
Et bonjour Renan, merci de me recevoir à nouveau.
Eh ben, on est ravis justement de vous revoir. Et première question que je pose à tous mes invités, comment allez-vous ?
Écoutez, avec ce soleil magnifique, les abeilles qui travaillent fort sur les acacias, ça va plutôt pas mal.
J'imagine, en effet. Et donc, comme je l'ai dit, merci de revenir à nos micros. Pour une autre occasion, cette fois, la journée mondiale des abeilles, le 20 mai. Une bonne occasion de vous inviter de nouveau, évidemment. Pour les mauvais élèves qui ne seraient pas venus la dernière fois lors de l'interview, qui n'ont pas écouté, pouvez-vous rappeler qui êtes-vous et ce que vous faites ?
Alors, je suis Paul Thérion, j'ai créé une entreprise qui s'appelle Erika, qui est une exploitation agricole, qui produit du miel. On a 700 ruches maintenant. La fois dernière, quand j'étais passé, on était à 500, on a augmenté, on est passé à 700 colonies. Et donc, le but, c'est avant tout de produire du miel et de valoriser les produits de la ruche au travers de différents produits de partage, donc des gins, des liqueurs, des hydromels, notamment.
En effet, donc on en avait parlé la dernière fois, on invite les gens à réécouter si ça les intéresse. Vous faites ça donc depuis quand et comment ça vous est venu ?
Je suis fait ça depuis 2018, alors Erika depuis 2018, l'apiculture tout seul sur mon exploitation depuis 2009. L'apiculture ça m'est venu, je vais raccourcir un petit peu, mais par l'ébénisterie, puisque je suis ébéniste au départ. J'ai commencé à fabriquer des ruches et c'est là que j'ai mis le doigt un petit peu dans l'apiculture. Et les spiritueux, et c'est alors déjà on en buvait peut-être un peu beaucoup, ça c'est la première chose. Et la seconde, j'ai une histoire familiale qui m'a amené à m'intéresser à la production d'alcool, puisque mon arrière-grand-père avait une distillerie de rhum à la Guadeloupe, mon grand-père était négociant en vin, vendait une partie des rhums produits par mon arrière-grand-père. C'est ça qui m'a amené dans les grandes lignes vers ces productions-là.
Vous aviez ça dans vos gènes, finalement.
Ouais, c'est ça, c'est... dans le sang déjà.
C'était déjà là. Vous l'avez dit, vous avez donc 700 ruches, en effet, ça a augmenté depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Au départ, donc, vous n'en aviez qu'une, je suppose.
Ah, au tout début, j'en avais qu'une, mais c'est très vite passé à 50, parce que quand j'ai décidé de m'installer, j'ai acheté une cinquantaine de colonies à l'apiculteur avec lequel je travaillais. Et après, il a fallu c'est-à-dire de 2002 à 2009 pour que petit à petit, j'augmente gentiment et que je me décide à savoir si je voulais vraiment m'installer. Et en 2009, j'avais 400 colonies.
Ah oui, déjà en 2009. Ouais. Donc déjà un bon nombre. Et vous êtes arrivé en Dordogne depuis quand ? Parce que vous n'étiez pas de Dordogne.
Je suis arrivé en Dordogne en 1996. Donc en gros, j'ai passé l'essentiel de ma vie en Dordogne. Donc, je ne sais pas si les Dordogneux ou les Périgordins me considèrent comme un des leurs, mais en tout cas, moi, je me considère comme d'ici.
Depuis plus de 20 ans, depuis 30 ans bientôt, du coup, maintenant,
ça,
dans
ça
un
passe
an,
vite.
Quand même, vous êtes bien adopté. Donc cette journée mondiale du 20 mai, donc consacrée aux abeilles, elle a été créée par les Nations Unies en 2017. Pour vous, en tant qu'apiculteur, c'est une satisfaction, enfin c'est une bonne chose de voir qu'une journée leur est consacrée à ces abeilles.
Moi, j'ai toujours tendance à dire que c'est dommage de consacrer une seule jour à une cause, mais en effet, ça permet de mettre un focus dessus. Bon, après, je pense qu'on a de la chance avec l'apiculture. On a quand même une bonne presse. Les gens commencent à être vraiment très, très sensibles aux insectes d'une manière générale et aux abeilles en particulier. Les agriculteurs y font particulièrement attention. Mais là, ça permet de mettre en lumière des choses, j'espère, plus positives que les petits soucis gros qu'on a au quotidien.
Et justement, pouvez-vous rappeler en quoi les abeilles sont importantes ? On sait de notre point de vue extérieur qu'elles pollinisent et tout, mais est-ce qu'elles ont d'autres fonctions qu'on naîtrait un peu moins ?
C'est essentiellement la pollinisation, on va dire. Hein, parce que si, en fait, elles contribuent aussi à une chaîne alimentaire, hein, ce qui n'est pas très drôle pour elles. Mais si, en effet, quand Einstein disait que si l'abeille disparaît, l'humanité n'aurait plus qu'un certain nombre d'années à vivre, c'est simplement que c'est le maillon d'une chaîne qui se rompt. Et il n'y a pas seulement les abeilles qui disparaissent, c'est tous les insectes de ce maillon-là qui disparaissent et du coup, qui ne sont plus une ressource alimentaire pour les animaux qui les mangent. Et petit à petit, cette chaîne se casse, se brise et tout s'effondre.
Oui,
donc le risque, il est là.
Donc elles sont quand même aussi importantes pour ça.
Absolument.
Et comment, justement, c'est quoi cette pollinisation ? Parce qu'on entend beaucoup ce mot, mais comment on le décrirait finalement ?
La pollinisation, c'est compliqué et simple. C'est compliqué parce que c'est un travail fastidieux et simple parce qu'en fait, il s'agit d'aller récupérer du pollen sur les fleurs mâles pour les amener sur les fleurs femelles, en simplifiant. Tous les insectes le font, il y a certaines plantes qui ont besoin du vent pour ça, mais l'intérêt des abeilles, c'est qu'elles ont... Déjà, elles sont très fidèles à la fleur à laquelle elles sont en train de butiner, surtout s'il y a une quantité importante, donc elles vont faire un travail de pollinisation qui va être pratiquement parfait. Elles vont visiter toutes les fleurs de tous les arbres, et donc elles vont bien répandre le pollen, et ça assurera une fécondation de la fleur de manière à ce qu'il y ait des fruits parfaitement ronds, bien gros, sur toutes les fleurs.
Elles travaillent bien, finalement.
Elles travaillent très, très bien, les abeilles.
Comment se gère toute une colonie d'abeilles ? Vous avez dit que vous avez 700 ruches. Mmh. C'est quand même, je suppose, un sacré travail. Donc, comment ça se gère, tout ça ?
Plus on en a, plus on va à l'essentiel. C'est-à-dire que si j'avais que 2 ruches, je prendrais beaucoup plus le temps d'ouvrir ma colonie. Peut-être que je l'embêterais un petit peu trop parce que j'ai envie de l'ouvrir sans cesse. Mais en gros, le travail d'un apiculteur, c'est d'une part de faire une visite de printemps en début d'année pour déjà sortir les colonies mortes, parce que malheureusement, il y en a. C'est de rééquilibrer un petit peu les colonies qui sont un petit peu en retard. Et ensuite, c'est de maîtriser les sémages. C'est essentiellement ça, à mon sens. Hein. Peut-être que d'autres apiculteurs me diront que je dis des bêtises. Mais en gros, le moyen de reproduction d'une colonie d'abeilles, c'est l'essaimage. Donc une colonie, quand elle est suffisamment populeuse au printemps, la vieille reine va partir avec une partie d'abeilles pour créer une nouvelle colonie. Nous, notre but, c'est de faire en sorte qu'elle ne parte pas. Donc on va venir prélever des essaims pour réduire un petit peu la population, la garder suffisamment forte pour qu'elle soit capable de produire du miel. Et comme ça, on crée aussi de nouvelles colonies, ce qui permet soit d'augmenter le nombre de ruches sur l'exploitation, soit de remplacer les mortalités.
Mais vous avez répondu en plus à une autre question que j'allais vous poser, c'est quel est le travail justement, qu'est-ce qu'il y a à faire. Mais vous avez parfaitement répondu à la suite, donc c'est parfait. Et comment on récolte au mieux le miel des abeilles, comment ça se fait? Et est-ce qu'il y a des saisons, est-ce qu'il y a des moments particuliers où il faut le faire?
Après, sur les récoltes, il y a 1000 méthodes. Allez, il y a beaucoup de méthodes. Moi, j'utilise une méthode qui est assez simple, qui s'appelle la méthode du chasse-abeille. Donc, en fait, c'est le principe d'une nasse. On va venir soulever la hausse. Donc, la hausse, c'est la caisse dans laquelle les abeilles vont stocker le miel, qu'on a le corps de ruche. Sur le corps de ruche, on vient rajouter une hausse. Et dans cette hausse, elles ne vont stocker que du miel. Cette hausse, il faut la vider des abeilles. Donc, on peut la prendre un toit retourné, taper la hausse pour faire tomber les abeilles. Donc, c'est un peu violent. On se casse le dos, on casse des toits, on casse des cadres. Mais c'est une méthode qui a le mérite d'être efficace, malgré tout. La méthode du chasse-abeille, c'est de mettre une espèce de planche qui va venir entre le corps de ruche et la hausse, avec un petit trou en son centre. Quand elles vont passer par le trou, elles vont passer comme dans une nasse. Elles vont descendre dans la partie inférieure et elles vont avoir des difficultés à remonter. Donc en 24 heures, on vide la hausse d'abeilles. Le lendemain, on vient récupérer ces hausses dans lesquelles il n'y a plus d'abeilles et ça part à l'atelier pour extraire le miel.
Oui, c'est tout un processus bien, bien rodé par les abeilles globalement.
Exactement.
Et est-ce que vous pouvez les aider? Enfin, comment votre rôle justement, ou est-ce que vous les laissez faire finalement?
Nous, notre rôle déjà, c'est de faire en sorte qu'elles soient en bonne santé. Donc on a un petit acarien qui est dans les ruches qui s'appelle le varroa, qui pompe le sang des abeilles, qui est vecteur de virus. À mon sens, c'est le problème majeur de l'apiculture. Tant qu'on n'arrive pas à maîtriser un petit peu ce problème, on ne peut pas le faire disparaître complètement. Donc il faut maintenir une pression faible du varroa. Si on ne maîtrise pas ça, c'est difficile de considérer que les problèmes viennent d'ailleurs. Une fois qu'on a réglé ce problème-là, on peut s'attaquer aux autres soucis. Donc ça, c'est la première chose. La seconde, s'il y a des problèmes de disette, etc., ce qui arrive de plus en plus souvent, on a des périodes, par exemple, où il va pleuvoir pendant 3 semaines, et là, les colonies vont mourir de faim. Donc là, il faut être capable de nourrir pour pouvoir faire en sorte qu'elles passent ces périodes de disette. Et la troisième chose, quand on le fait, moi, c'est ce que je fais, c'est la transhumance, c'est-à-dire qu'on va déplacer les colonies pour les amener au plus proche des floraisons, de sorte qu'on n'ait pas besoin de les nourrir aussi. Et c'est grâce à ça qu'on va produire différents types de miel, mais c'est aussi grâce à ça qu'elles vont constituer des stocks pour passer la saison, pouvoir supporter les périodes de disette. Donc c'est comme ça qu'on les aide.
Et bon, cette période de disette en ce moment, elle n'existe pas trop avec le beau temps.
Non, en ce moment, ça va.
C'est plutôt une bonne chose pour vous. Je vais revenir sur votre entreprise, Erika, parce que donc, vous vendez des jeans, des hydromels et tout ça, mais vous vendez du miel, évidemment.
Exactement.
Du miel bio. Quelles sont les conditions pour qu'un miel soit certifié bio?
Alors, bon, déjà, dans un premier temps, c'est la ressource. C'est compliqué de faire du colza ou du tournesol parce qu'il n'y a pas les surfaces. Ça existe, du colza et du tournesol en bio. Déjà, c'est très compliqué à produire, la plante. Et donc déjà, la première chose, c'est d'avoir les ruches dans des secteurs où il n'y a pas de culture conventionnelle ou de culture traitée. On sait qu'elles butinent dans un rayon de 3 km. Donc on va les mettre à ces endroits-là. Après, on joue sur les décalages de floraison. On peut être à côté d'un champ de colza qui a fini sa floraison parce qu'on est intéressé par, de l'acacia qui aurait à côté ou plus tardivement du châtaignier. Ensuite, c'est les traitements contre varroa. En conventionnel, on traite avec une molécule chimique qui n'a pas d'incidence parce qu'on utilise cette molécule après la saison, en fin de saison. On n'a pas le droit de l'utiliser au moment où elle récolte du miel. Et donc en bio, on utilise des huiles essentielles, des acides organiques. Donc on traite beaucoup plus souvent qu'en conventionnel. Et du coup, on vient traiter quasiment une fois par mois. Et je ne me rappelle plus de la question.
Non, c'était les conditions pour que ça soit un miel bio. Mais
ah oui, c'est ça. Donc après, c'est pareil, on doit nourrir. Quand on nourrit, on utilise du sucre bio. Donc en fait, on doit aussi s'approvisionner que dans le réseau bio.
Et non, les explications étaient bonnes. D'ailleurs, vous avez eu un miel qui a été récompensé, c'est ça?
Alors, on a un miel qui a été récompensé, mais malheureusement, on ne s'est pas servi de la récompense parce qu'on a parfois des problèmes de trésorerie. Du coup, j'ai vendu le miel qui a été récompensé, je l'ai vendu en vrac. Mais on représentera à nouveau l'ensemble de la gamme au concours des saveurs Nouvelle-Aquitaine.
C'est quand ce concours?
Je crois que c'est en septembre-octobre.
Oui, en fin de saison.
Oui, exactement. Oui.
Okay. J'ai vu évidemment sur votre site, et Erika, vous rappelez votre engagement pour le respect des abeilles et de leur écosystème. On sait que justement, on parle de plus en plus qu'elles sont menacées. Pour vous, c'est quelque chose qui compte, je suppose?
C'est quelque chose qui est fondamental parce que, à mon sens, si les abeilles, subissent les attaques un peu des produits chimiques divers et variés. Ça se voit très très rapidement parce qu'elles sont extrêmement sensibles, ça se voit très rapidement sur elles. C'est pour ça qu'on les appelait abeilles sentinelles de l'environnement. Ça veut dire que ça a aussi une incidence sur nous. On vient souvent rappeler l'importance de l'abeille au niveau de la pollinisation et derrière des questions économiques, etc. Je pense que ça, c'est très accessoire. Je veux dire, on peut crouler sous des billets de banque si on est en train de crever parce qu'on est cafi de pesticides. Bon, ça n'a plus aucun intérêt. C'est surtout ça. C'est surtout préserver, nous, notre santé. Et du coup, c'est en ça qu'elles sont une sentinelle de l'environnement. C'est que quand elles commencent à mourir à cause d'un produit chimique, ça veut dire que nous aussi, on meurt à petit feu à cause de ça.
Oui, finalement, les protéger, c'est nous protéger. Finalement.
Exactement. C'est difficile d'accuser quelqu'un. Je veux dire, on ne peut pas dire les céréaliers sont responsables. Les céréaliers, ils sont aussi soumis à des règles qui font qu'ils n'ont pas d'alternative. Il faut qu'ils aient des entreprises qui fonctionnent financièrement. Ils ont tel outil à leur disposition et font un petit peu comme ils peuvent. Je pense qu'en l'espace de 20 ans, l'essentiel des agriculteurs de France a réduit considérablement sa consommation de produits chimiques, de ses intrants chimiques, parce que d'abord, eux, ils se rendent compte de l'incidence que ça a sur leur organisme, et puis parce que ça coûte très cher aussi également.
Oui, évidemment.
Et on est loin d'être le pays le plus catastrophique. Je pense qu'on est pas mal. On doit s'enorgueillir un petit peu de ça, même s'il y a toujours du travail à faire, c'est évident.
Bien sûr, il y a toujours un processus, mais qui pour
Absolument.
Vous, donc, est... En bonne marche, en tout cas. En bonne marche.
J'ai l'impression. Et puis, je veux dire, si on passe notre vie à taper sur la tête des gens, en fait, c'est pas comme ça qu'on fait avancer les choses.
Bien sûr, complètement. J'ai une dernière question, un peu plus personnelle, du coup. Est-ce que depuis le temps que vous faites ce métier d'apiculteur, vous avez, on va dire, noué une relation avec vos abeilles ?
On peut dire que oui. Après, c'est plus avec l'image de l'abeille, parce que déjà, ça vit un mois et demi, deux mois, une abeille pendant la saison. En l'espace d'une année sur l'autre, c'est pas les mêmes. Mais en tout cas, c'est un endroit où je me sens bien. C'est un endroit où je me sens en sécurité, j'allais dire. Et puis finalement, comme toutes les personnes qui travaillent avec les animaux, on finit par finalement parfois être mieux avec elles qu'avec, qu'avec nos compatriotes.
C'est ce qu'on entend parfois, en effet. Bon. Eh bien, merci beaucoup, Paul Thirion, d'être revenu à nos micros. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Que j'aurais oublié.
Non, je pense qu'on a fait le tour, on est pas mal.
Je pense en effet. Donc, vous êtes venu pour nous parler de cette journée mondiale des abeilles le 20 mai. Votre miel, comme je l'ai dit, ou vos hydromels et tout ce que vous vendez, on peut l'acheter où pour nos auditeurs ?
On peut venir à l'atelier. Après, il y a les magasins bio de Bergerac. La petite échoppe qui est à l'entrée de l'Escat. L'Escat, c'est l'ancien site militaire qui est à côté du barrage au Pont-Roux. Ça, c'est un endroit très intéressant. Je vous invite tous à aller visiter cette petite échoppe. Je fais de la pub pour les voisins.
Non, mais vous avez raison.
Qui s'appelle l'échoppe, du coup, qui est avenue Aristide Briand à Bergerac.
Eh bien, on note. On espère que nos auditeurs ont noté et aussi sur votre site internet.
Et sur le site internet également, oui.
Eh bien, merci pour tout, Paul. Tout est dit. Merci. Et à une prochaine, donc, peut-être une autre occasion, cette
fois-ci,
de vous revoir. Merci beaucoup, Paul.
Merci à vous.